Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, l'épidémie de coronavirus. La propagation continue de manière importante en Italie. 133 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures en Italie. Un quart de la population se trouve en quarantaine, c'est-à-dire qu'elle doit rester chez elle.
Le président turc appelle la Grèce à ouvrir ses frontières dans un contexte de crise migratoire avec l'Union européenne. Recep Tayyip Erdogan est attendu à Bruxelles demain, lundi.
Et puis, la journée internationale des droits des femmes ce dimanche. Reportage à Paris dans ce journal où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Le sujet qui a inspiré également Yvan Amar, vous le verrez, pour son expression de la semaine. Soyez les bienvenus.
Le journal en français facile.
Dans l'épidémie de coronavirus, l'Italie est désormais le pays le plus touché après la Chine.
Oui, avec déjà 7375 cas, dont 366 décès. Alors, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Depuis ce dimanche, un quart de la population italienne est placée en quarantaine. Cela veut dire que les habitants doivent rester chez eux. C'est une vaste zone du nord du pays qui est concernée. Elle va de Milan à Venise. Tandis qu'à Rome, le pape François a récité sa traditionnelle prière du dimanche pour la première fois en vidéo. Mais le pape a réservé une petite surprise aux fidèles qui suivaient cette prière sur écran géant. Écoutez le reportage Place Saint-Pierre d'Éric Sénanque.
Bonjour. C'est un peu étrange cette prière de l'Angélus aujourd'hui avec le pape en cage dans la bibliothèque, mais je vous vois, je suis près de vous, lance François aux pèlerins regroupés devant les écrans de la place Saint-Pierre. D'ordinaire, les fidèles regardent vers le dernier étage du palais apostolique, mais ce dimanche, la fenêtre est fermée. Le pape a prié pour les victimes de la guerre en Syrie, mais aussi pour les malades du coronavirus et les soignants. Sur place, Milona est venue suivre le pape pour cet Angélus inhabituel.
Ça fait un peu bizarre de le voir sur le machin, mais en même temps, voilà, je pense que la peur n'est jamais un bon conseiller, globalement parlant. Mais voilà, on prie ensemble, on continue.
À la fin de la prière, François bénit les pèlerins, mais chose inattendue, il demande que s'ouvre la fenêtre pour saluer la foule.
Le Saint-Père arrive là, à la fenêtre.
Il a
annoncé qu'il s'arrête. Il a dit qu'il allait venir pour nous voir dans le temps réel. Super, je trouve, parce qu'il est très paternel et il aime bien la réalité de la vie.
Mercredi prochain, l'audience générale sera elle aussi retransmise sur des écrans, mais le souverain pontife réservera peut-être aux fidèles présents à Rome une nouvelle surprise. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Et puis l'épidémie romain de coronavirus en France, la barre du millier de contaminations a été franchie ce dimanche.
Oui, 1126 personnes infectées en France selon le dernier bilan, 19 décès. Un conseil de défense vient de se terminer autour du président Emmanuel Macron. Alors la France reste au stade 2 de l'épidémie. Et puis une nouvelle mesure a été annoncée à l'issue de ce conseil de défense, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes.
Le président turc attendu demain à Bruxelles.
Un déplacement qui sera observé de près en raison de la crise migratoire actuellement entre Ankara et Bruxelles. Pour rappel, la semaine dernière, Recep Tayyip Erdogan avait dit qu'il était prêt à ouvrir les frontières avec l'Union européenne pour laisser passer les migrants, ce qui va à l'encontre d'un accord conclu avec Bruxelles en 2016. Alors ce dimanche, le président turc s'est à nouveau exprimé sur le sujet et cela va dans la continuité de ce qu'il avait déclaré puisqu'il appelle la Grèce à ouvrir ses portes aux migrants. Correspondance à Istanbul, Dan Andlauer.
Grèce, ouvre tes portes. Cet appel, ce n'est pas seulement celui des milliers de migrants qui ont afflué à la frontière gréco-turque et continué ce week-end de faire le siège du poste frontière de Pazarkoule malgré les gaz lacrymogènes de la police grecque. Cet appel, c'est aussi celui du président turc avant son départ pour Bruxelles. Recep Tayyip Erdogan a précisé qu'il ne demandait pas à la Grèce d'accueillir les migrants. Je le cite, « Ces gens ne resteront pas chez toi, ils ne feront que passer pour aller dans d'autres pays d'Europe. » Et d'ajouter toujours à l'attention d'Athènes, « Libère-toi de ce fardeau. » C'est donc bien aux dirigeants européens que Recep Tayyip Erdogan s'adressait derrière cet appel à la Grèce. Il doit les rencontrer ce lundi pour sa première visite à Bruxelles depuis le changement d'équipe à la tête des instances de l'Union européenne. Selon la présidence turque, Turcs. Il vient notamment discuter d'une mise à jour de l'union douanière entre la Turquie et l'UE et de l'ouverture de nouveaux chapitres des négociations d'adhésion. Autant de promesses qui figuraient dans le pacte migratoire de 2016 mais qui n'ont jamais été tenues. J'espère obtenir des résultats différents avec cette nouvelle équipe, a déclaré le président turc. Anadolu Istanbul, RFI.
Et puis c'était aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes.
Et à cette occasion, des manifestations partout dans le monde ont eu lieu, notamment dans des pays où les droits des femmes sont encore loin d'être respectés. On va citer par exemple le Pakistan, où la société est ultra-patriarcale, c'est-à-dire qu'elle est dominée par les hommes, aux Philippines également, ou encore au Soudan. Des manifestations ont également eu lieu en France, la plus importante à Paris. Elle a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Écoutez le reportage d'Aram Beng.
Parmi les manifestants composés majoritairement de femmes, beaucoup sont habillés en bleu de travail, fichu rouge sur la tête. Une tenue devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes, comme l'indique cette manifestante.
Alors en fait, c'est la tenue des rosies, donc c'est la tenue que portent les femmes là, qui se révoltent depuis un certain temps contre tout ce que fait le gouvernement. Là, si on part juste des retraites, qui est le point qui nous touche un peu tous en ce moment, on voit que nous, les femmes, une retraite complète, pour nous, ça n'existera jamais. Donc on n'a pas envie de se laisser faire.
Première halte symbolique du cortège, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'occasion pour des personnels soignants de se joindre à la manifestation, comme cette infirmière.
Nous, c'est surtout parce que l'hôpital est en lutte, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a une épidémie, une pandémie qui est là et on est démunis. Et il y a aussi une retraite là qui va venir là bientôt. Et nous, les hospitalières, on est lésés parce qu'il n'y a plus de pénibilité. Nous avions la pénibilité avant. Maintenant, elle n'est plus reconnue.
Revalorisation des métiers exercés en majorité par des femmes, égalité des salaires entre les hommes et les femmes, mais aussi retrait du projet de réforme des retraites. Voilà autant de revendications que les associations féministes continueront de défendre au-delà de la journée du 8 mars.
Un reportage d'Aram Beng.
En sport rugby, l'équipe de France ne réalisera pas le Grand Chelem dans le tournoi des Six Nations.
Oui, une équipe qui réalise le Grand Chelem, c'est quand elle gagne tous ses matchs dans la compétition. Mais après 3 victoires, l'équipe de France a été battue. Cet après-midi, elle a été battue par l'Écosse 28-17. Cependant, la France peut encore remporter le tournoi. Elle affrontera samedi prochain l'Irlande. RFI 21h08 ici à Paris et c'est l'heure, comme chaque dimanche, de retrouver l'expression de la semaine et cela fait écho à l'un des sujets que l'on vient d'entendre, Yvan Amar.
Nombreuses manifestations aujourd'hui pour marquer cette journée internationale du droit des femmes avec, par exemple, la marche des grandes gagnantes. Mais comme les combats ont souvent besoin de symboles, de figures fortes, on nous rappelle l'image de Rosie la rifteuse. Et on entend pas mal cette expression, Rosie la rifteuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rifteuse? C'est le féminin de rifteur. Et le mot rifteur a existé en premier, c'est intéressant de le souligner. Le rifteur, c'est celui qui pose des rivets. Le rivet, c'est l'un des symboles du travail à la chaîne, en usine, un petit peu comme le boulon, c'est une grosse tige métallique qui sert à assembler plusieurs pièces. Alors, poser des rivets demande de la force. Longtemps, ça a été considéré comme un travail d'homme. Donc, il y avait des rifteurs, pas de rifteuses. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup d'hommes étaient mobilisés aux États-Unis, eh bien, les industries ont engagé des femmes. Et on s'est rendu compte que ces femmes faisaient aussi bien que les hommes ce genre de travaux. Donc, après les rifteurs, on a eu les rifteuses, si on traduit le mot en français, bien sûr. Et une affiche montre bien cela. Elle représente Rosie, la rifteuse. Rosie, c'est un bon exemple de prénom populaire aux États-Unis. Et celle qu'on nous montre avec son foulard à pois, celle qui gonfle ses biceps pour montrer sa force, c'est l'une des rares images où l'on voit justement une femme qui ne correspond pas à une représentation féminine traditionnelle comme un objet de désir pour les hommes. Elle est forte, elle est moqueuse, elle est plutôt triomphante. Alors bien sûr, au départ, ces affiches étaient faites pour faire travailler les femmes dans les usines, faire tourner l'industrie de guerre, mais longtemps après, on les a retrouvées et on les a d'une certaine façon retournées pour montrer la possibilité d'une égalité des femmes et des hommes.
Eh bien merci Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris.